Swann, comme beaucoup de gens, avait l'esprit paresseux et manquait d'invention. Il savait bien, comme une vérité générale, que la vie des êtres est pleine de contrastes, mais pour chaque être en particulier. Il imaginait toute la partie de sa vie qu'il ne connaissait pas comme identique à la partie qu'il connaissait. Il imaginait ce qu'on lui taisait à l'aide de ce qu'on lui disait. Dans les moments où Odette était auprès de lui, s'ils parlaient ensemble d'une action indélicate commise ou d'un sentiment indélicat éprouvé par un autre, elle les flétrissait en vertu des mêmes principes que Swann avait toujours entendu professer par ses parents et auxquels il était resté fidèle. Et puis elle arrangeait ses fleurs, elle buvait une tasse de thé, elle s'inquiétait des travaux de Swann. Donc, Swann étendait ses habitudes au reste de la vie d'Odette. Il répétait ses gestes quand il voulait se représenter les moments où elle était loin de lui. Si on la lui avait dépeinte telle qu'elle était, ou plutôt qu'elle avait été si longtemps avec lui, mais auprès d'un autre homme, il eût souffert, car cette image lui eût paru vraisemblable. Mais qu'elle alla chez des maquerelles, se livra à des orgies avec des femmes, qu'elle mena la vie crapuleuse de créatures abjectes, quelle divagation insensée à la réalisation de laquelle, Dieu merci, les chrysanthèmes imaginés, l'été successif, les indignations vertueuses ne laissaient aucune place. Seulement, de temps à autre, il laissait entendre à Odette que, par méchanceté, on lui racontait tout ce qu'elle faisait. Et se servant à propos d'un détail insignifiant mais vrai qu'il avait appris par hasard, comme s'il était le seul petit bout qu'il laissa passer, malgré lui, entre tant d'autres, d'une reconstitution complète de la vie d'Odette qu'il tenait cachée en lui, il l'amenait à supposer qu'il était renseigné sur des choses qu'en réalité il ne savait ni même ne soupçonnait. Car si bien souvent il adjurait Odette de ne pas altérer la vérité, c'était seulement qu'il s'en rendit compte ou non pour qu'Odette lui dît tout ce qu'elle faisait. Sans doute, comme il le disait à Odette, il aimait la sincérité. Mais il l'aimait comme une proxénète pouvant le tenir au courant de la vie de sa maîtresse. Aussi, son amour de la sincérité n'étant pas désintéressé, ne l'avait pas rendu meilleur. La vérité qu'il chérissait, c'était celle que lui dirait Odette. Mais lui-même, pour obtenir cette vérité, ne craignait pas de recourir au mensonge. Le mensonge qu'il ne cessait de peindre à Odette comme conduisant à la dégradation toute créature humaine. En somme, il mentait autant qu'Odette, parce que, plus malheureux qu'elle, il n'était pas moins égoïste. Et elle, entendant Swann lui raconter ainsi elle-même des choses qu'elle avait faites, le regardait d'un air méfiant, et, à toute aventure, fâchée pour ne pas avoir l'air de s'humilier et de rougir de ses actes. Un jour, étant dans la période de calme la plus longue qu'il eût encore pu traverser sans être repris d'accès de jalousie, il avait accepté d'aller le soir au théâtre avec la princesse des Laumes. Ayant ouvert le journal pour chercher ce qu'on jouait, la vue du titre « Les filles de marbre » de Théodore Barrière le frappa si cruellement qu'il eut un mouvement de recul et détourna la tête. Éclairé comme par la lumière de la rampe, à la place nouvelle où il figurait, ce mot de marbre, qu'il avait perdu la faculté de distinguer tant il avait l'habitude de l'avoir souvent sous les yeux, lui était soudain redevenu visible et l'avait aussitôt fait souvenir de cette histoire qu'Odette lui avait racontée autrefois, d'une visite qu'elle avait faite au salon du Palais de l'Industrie avec Madame Verdurin et où celle-ci lui avait dit « Prends garde, je saurai bien te dégeler, tu n'es pas de marbre ». Odette lui avait affirmé que ce n'était qu'une plaisanterie, et il n'y avait attaché aucune importance. Mais il avait alors plus de confiance en elle qu'aujourd'hui. Justement, la lettre anonyme parlait d'amour de ce genre. Sans oser lever les yeux vers le journal, il le déplia, tourna une feuille pour ne plus voir ce mot « les filles de marbre » et commença à lire machinalement les nouvelles des départements. Il y avait eu une tempête dans la Manche, on signalait des dégâts à Dieppe, à Cabourg, à Beuzeval. Aussitôt, il fit un mouvement en arrière. Le nom de Beuzeval l'avait fait penser à celui d'une autre localité de cette région, Beuzeville, qui porte, uni à celui-là par un trait d'union, un autre nom, celui de Bréauté, qu'il avait vu si souvent sur les cartes, mais dont pour la première fois il remarquait que c'était le même que celui de son ami M. de Bréauté, dont la lettre anonyme disait qu'il avait été l'amant d'Odette. Après tout, pour M. de Bréauté, l'accusation n'était pas invraisemblable. Et en ce qui concernait Mme Verdurin, il y avait impossibilité. De ce qu'Odette mentait quelquefois, on ne pouvait conclure qu'elle ne disait jamais la vérité, et dans ses propos qu'elle avait échangés avec Mme Verdurin et qu'elle avait racontés elle-même à Swann, il avait reconnu ces plaisanteries inutiles et dangereuses que, par expérience de la vie et ignorance du vice, tiennent des femmes dont ils révèlent l'innocence, et qui, comme par exemple Odette, sont plus éloignées qu'aucune d'éprouver une tendresse exaltée pour une autre femme. Tandis qu'au contraire, l'indignation avec laquelle elle avait repoussé les soupçons qu'elle avait involontairement fait naître un instant en lui par son récit, cadrée avec tout ce qu'il savait des goûts, du tempérament de sa maîtresse. Mais à ce moment, par une de ces inspirations de jaloux, analogues à celles qui apportent au poète ou au savant qui n'ont encore qu'une rime ou qu'une observation, l'idée ou la loi qui leur donnera toute leur puissance, Swann se rappela pour la première fois une phrase qu'Odette lui avait dite il y avait déjà 2 ans. « Oh, Madame Verdurin, en ce moment, il n'y en a que pour moi. Je suis un amour. Elle m'embrasse, elle veut que je fasse des courses avec elle. Elle veut que je la tutoie. » Loin de voir alors dans cette phrase un rapport quelconque avec les absurdes propos destinés à simuler le vice que lui avait raconté Odette, il l'avait accueillie comme la preuve d'une chaleureuse amitié. Maintenant, voilà que le souvenir de cette tendresse de Madame Verdurin était venu brusquement rejoindre le souvenir de sa conversation de mauvais goût. Il ne pouvait plus les séparer dans son esprit, et les vit mêlées aussi dans la réalité. La tendresse donnant quelque chose de sérieux et d'important à ses plaisanteries, qui en retour lui faisaient perdre de son innocence. Il alla chez Odette. Il s'assit loin d'elle. Il n'osait l'embrasser, ne sachant si en elle, si en lui, c'était l'affection ou la colère qu'un baiser réveillerait. Il se taisait. Il regardait mourir leur amour. Tout à coup, il prit une résolution. « Odette, lui dit-il, mon chéri, je sais bien que je suis odieux, mais il faut que je te demande des choses. » Tu te souviens de l'idée que j'avais eue à propos de toi et de Madame Verdurin ? Dis-moi si c'était vrai, avec elle ou avec une autre. » Elle secoua la tête en fronçant la bouche, signe fréquemment employé par les gens pour répondre qu'ils n'iront pas, que cela les ennuie, à quelqu'un qui leur a demandé. « Viendrez-vous voir passer la cavalcade ? Assisterez-vous à la revue ?» Mais ce hochement de tête, affecté ainsi d'habitude à un événement à venir, mêle à cause de cela, de quelque incertitude, la dénégation d'un événement passé. De plus, il n'évoque que des raisons de convenance personnelle plutôt que la réprobation, qu'une impossibilité morale. Et voyant Odette lui faire ainsi le signe que c'était faux, Swann comprit que c'était peut-être vrai. « Je te l'ai dit, tu le sais bien !» ajouta-t-elle d'un air irrité et malheureux. « Oui, je sais, mais en es-tu sûr ? Ne me dis pas, tu le sais bien. Dis-moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. » Elle répéta comme une leçon sur un ton ironique et comme si elle voulait se débarrasser de lui. « Je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. » Peux-tu me le jurer sur ta médaille de Notre-Dame de la Jette ? Swann savait qu'Odette ne se parjurerait pas sur cette médaille-là. « Oh, que tu me rends malheureuse ! » s'écria-t-elle en se dérobant par un sursaut à l'étreinte de sa question. « Mais as-tu bientôt fini ? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Tu as donc décidé qu'il fallait que je te déteste ? Que je t'exècre ? Voilà, je voulais reprendre avec toi le bon temps comme autrefois. Et voilà mon remerciement. » Mais ne la lâchant pas, comme un chirurgien attend la fin du spasme qui interrompt son intervention, mais ne l'y fait pas renoncer. « Tu as bien tort de te figurer que je t'en voudrais le moins du monde, Odette, » lui dit-il avec une douceur persuasive et menteuse. « je ne te parle jamais que de ce que je sais, et j'en sais toujours bien plus long que je ne dis. Mais toi seul peux adoucir par ton aveu ce qui me fait te haïr tant que cela ne m'a été dénoncé que par d'autres. Ma colère contre toi ne vient pas de tes actions. Je te pardonne tout puisque je t'aime. Mais de ta fausseté absurde qui te fait persévérer à nier des choses que je sais. Et comment veux-tu que je puisse continuer à t'aimer quand je te vois me soutenir, me jurer une chose que je sais fausse ? Odette, ne prolonge pas cet instant qui est une torture pour nous deux. Si tu le veux, ce sera fini dans une seconde. Tu seras pour toujours délivré. Dis-moi, sur ta médaille, si oui ou non tu as jamais fait ces choses. Mais je n'en sais rien, moi ! S'écria-t-elle avec colère. Peut-être il y a très longtemps, sans me rendre compte de ce que je faisais. Peut-être 2 ou 3 fois. Swann avait envisagé toutes les possibilités. La réalité est donc quelque chose qui n'a aucun rapport avec les possibilités. Pas plus qu'un coup de couteau que nous recevons avec des légers mouvements des nuages au-dessus de notre tête, puisque ces mots, 2 ou 3 fois, marquèrent à vif une sorte de croix dans son cœur. Chose étrange que ces mots, 2 ou 3 fois. Rien que des mots prononcés dans l'air, à distance, puissent ainsi déchirer le cœur comme s'ils le touchaient véritablement, puissent rendre malade comme un poison qu'on absorberait. Involontairement, Swann pensa à ce mot qu'il avait entendu chez Madame de Sainte-Verte. C'est ce que j'ai vu de plus fort depuis les tables tournantes. Non pas seulement parce que dans ses heures de plus entière méfiance il avait rarement imaginé si loin dans le mal, mais parce que même quand il imaginait cette chose, elle restait vague, incertaine, dénuée de cette horreur particulière qui s'était échappée des mots, peut-être 2 ou 3 fois, dépourvue de cette cruauté spécifique aussi différente de tout ce qu'il avait connu qu'une maladie dont on est atteint pour la première fois. Et pourtant, cette Odette d'où lui venait tout ce mal ne lui était pas moins chère, bien au contraire plus précieuse, comme si au fur et à mesure que grandissait la souffrance, grandissait en même temps le prix du calmant, du contrepoison, que seule cette femme possédait. Il voulait lui donner plus de soins comme à une maladie qu'on découvre soudain plus grave. Il voulait que la chose affreuse qu'elle lui avait dit avoir faite 2 ou 3 fois ne pût pas se renouveler. Pour cela, il lui fallait veiller sur Odette. On dit souvent qu'en dénonçant à un ami les fautes de sa maîtresse, on ne réussit qu'à le rapprocher d'elle, parce qu'il ne leur ajoute pas foi. Mais combien davantage s'il leur ajoute foi ? Mais, se disait Swann, comment réussir à la protéger ? Il pouvait peut-être la préserver d'une certaine femme, mais il y en avait des centaines d'autres. Et il comprit quelle folie avait passé sur lui quand il avait, le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les Verdurin, commencé de désirer la possession toujours impossible d'un autre être. Heureusement pour Swann, sous les souffrances nouvelles qui venaient d'entrer dans son âme comme des hordes d'envahisseurs, il existait un fond de nature plus ancien, plus doux et silencieusement laborieux, comme les cellules d'un organe blessé qui se mettent aussitôt en mesure de refaire les tissus lésés, comme les muscles d'un membre paralysé qui tentent à reprendre leurs mouvements. Ces plus anciens, plus autochtones habitants de son âme employèrent un instant toutes les forces de Swann à ce travail obscurément réparateur qui donne l'illusion du repos à un convalescent, à un opéré. Cette fois-ci, ce fut moins comme d'habitude dans le cerveau de Swann que se produisit cette détente par épuisement. Ce fut plutôt dans son cœur. Mais toutes les choses de la vie qui ont existé une fois tentent à se recréer. Et comme un animal expirant qu'agite de nouveau le sursaut d'une convulsion qui semblait finie, sur le cœur, un instant épargné de Swann, d'elle-même la souffrance va retracer la même croix. Il se rappela ces soirs de clair de lune, où, allongé dans sa victoria qui le menait rue La Pérouse, il cultivait voluptueusement en lui les émotions de l'homme amoureux, sans savoir le fruit empoisonné qu'elle produirait nécessairement. Mais toutes ces pensées ne durèrent que l'espace d'une seconde. Le temps qu'il porta la main à son cœur, reprit sa respiration et parvint à sourire pour dissimuler sa torture. Déjà, il recommençait à poser ses questions. Car sa jalousie, qui avait pris une peine qu'un ennemi ne se serait pas donnée pour arriver à lui faire asséner ce coup, à lui faire faire la connaissance de la douleur la plus cruelle qu'il eût encore jamais connue, sa jalousie ne trouvait pas qu'il eût assez souffert et cherchait à lui faire recevoir une blessure plus profonde encore. Telle comme une divinité méchante, sa jalousie inspirait Swann et le poussait à sa perte. Ce ne fut pas sa faute, mais celle d'Odette seulement, si d'abord son supplice ne s'aggrava pas. « Ma chérie, lui dit-il, c'est fini. Était-ce avec une personne que je connais ?»« Mais non, je te jure. D'ailleurs, je crois que j'ai exagéré, que je n'ai pas été jusque-là. » Il sourit et reprit. « Que veux-tu ? Cela ne fait rien, mais c'est malheureux que tu ne puisses pas me dire le nom. » De pouvoir me représenter la personne, cela m'empêcherait de plus jamais y penser. Je le dis pour toi, parce que je ne t'ennuierai plus. C'est si calmant de se représenter les choses. Ce qui est affreux, c'est ce qu'on ne peut pas imaginer. Mais tu as déjà été si gentil, je ne veux pas te fatiguer. Je te remercie de tout mon cœur, de tout le bien que tu m'as fait. C'est fini. Seulement ce mot... Il y a combien de temps ? Oh, Charles, tu ne vois pas que tu me tues ? C'est tout ce qu'il y a de plus ancien. Je n'y avais jamais repensé. On dirait que tu veux absolument me redonner ces idées-là. Tu seras bien avancé, dit-elle avec une sottise inconsciente et une méchanceté voulue. Oh, je voulais seulement savoir si c'est depuis que je te connais. Mais ce serait si naturel. Est-ce que ça s'est passé ici ? Tu ne peux pas me dire un certain soir que je me représente ce que je faisais ce soir-là ? Tu comprends bien qu'il n'est pas possible que tu ne te rappelles pas avec qui, Odette, mon amour. Mais je ne sais pas, moi. Je crois que c'était au bois un soir où tu es venu nous retrouver dans l'île. « Tu avais dîné chez la princesse des Lômes, dit-elle, heureuse de fournir un détail précis qui attestait sa véracité. À une table voisine, il y avait une femme que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Elle m'a dit « Venez donc derrière le petit rocher voir l'effet du clair de lune sur l'eau. » D'abord, j'ai bâillé et j'ai répondu « Non, je suis fatiguée et je suis bien ici. » Elle a assuré qu'il n'y avait jamais eu un clair de lune pareil. Je lui ai dit « Cette blague !» Je savais bien où elle voulait en venir. Odette racontait cela presque en riant, soit que cela lui parut tout naturel, ou parce qu'elle croyait en atténuer ainsi l'importance, ou pour ne pas avoir l'air humiliée. En voyant le visage de Swann, elle changea de ton. « Tu es un misérable !» Tu te plais à me torturer, à me faire faire des mensonges que je dis afin que tu me laisses tranquille. » Ce second coup porté à Swann était plus atroce encore que le premier. Jamais il n'avait supposé que ce fût une chose aussi récente, cachée à ses yeux qui n'avaient pas su la découvrir, non dans un passé qu'il n'avait pas connu, mais dans des soirs qu'il se rappelait si bien, qu'il avait vécu avec Odette, qu'il avait cru... connu si bien par lui et qui maintenant prenait rétrospectivement quelque chose de fourbe et d'atroce. Au milieu d'eux, tout d'un coup, se creusait cette ouverture béante, ce moment dans l'île du bois. Odette, sans être intelligente, avait le charme du naturel. Elle avait raconté, elle avait mimé cette scène avec tant de simplicité que Swann, haletant, voyait tout. Le bâillement d'Odette, le petit rocher... Il l'entendait répondre, gaiement, hélas, « Cette blague !» Il sentait qu'elle ne dirait rien de plus ce soir, qu'il n'y avait aucune révélation nouvelle à attendre en ce moment. Elle se taisait. Il lui dit, « Mon pauvre chéri, pardonne-moi, je sens que je te fais de la peine. C'est fini, je n'y pense plus. » mais elle vit que ses yeux restaient fixés sur les choses qu'il ne savait pas et sur ce passé de leur amour, monotone et doux dans sa mémoire parce qu'il était vague et que déchirait maintenant comme une blessure cette minute dans l'île du bois, au clair de lune, après le dîner chez la princesse des Laumes. Mais il avait tellement pris l'habitude de trouver la vie intéressante, d'admirer les curieuses découvertes qu'on peut y faire, que tout en souffrant, au point de croire qu'il ne pourrait pas supporter longtemps une pareille douleur, il se disait « La vie est vraiment étonnante et réserve de belles surprises. En somme, le vice est quelque chose de plus répandu qu'on ne croit. Voilà une femme en qui j'avais confiance, qui a l'air si simple, si honnête, en tout cas, si même elle était légère, qui semblait bien normale et saine dans ses goûts. Sur une dénonciation invraisemblable, je l'interroge, et le peu qu'elle m'avoue révèle bien plus que ce qu'on y peut soupçonner. » Mais il ne pouvait pas se borner à ces remarques désintéressées. Il cherchait à apprécier exactement la valeur de ce qu'elle lui avait raconté, afin de savoir s'il devait conclure que ces choses, elle les avait faites souvent, qu'elles se renouvelleraient. Il se répétait ces mots qu'elle avait dit. Je voyais bien où elle voulait en venir. Deux ou trois fois. Cette blague. Mais il ne reparaissait pas désarmé dans la mémoire de Swann. Chacun d'eux tenait son couteau et lui emportait un nouveau coup. Pendant bien longtemps, comme un malade ne peut s'empêcher d'essayer à toute minute de faire le mouvement qui lui est douloureux, il se redisait ces mots. Je suis bien ici. Cette blague. Mais la souffrance était si forte qu'il était obligé de s'arrêter. Il s'émerveillait que des actes que toujours il avait jugés si légèrement, si gaiement, maintenant fussent devenus pour lui graves comme une maladie dont on peut mourir. Il connaissait bien des femmes à qui il eût pu demander de surveiller Odette. Mais comment espérer qu'elles se placeraient au même point de vue que lui et ne resteraient pas à celui qui avait été si longtemps le sien, qui avait toujours guidé sa vie voluptueuse? Ne lui dirait pas en riant « Vilain jaloux qui veut priver les autres d'un plaisir !» Par quelle trappe soudainement abaissée, lui qui n'avait eu autrefois de son amour pour Odette que des plaisirs délicats, avait-il été brusquement précipité dans ce nouveau cercle de l'enfer d'où il n'apercevait pas comment il pourrait jamais sortir? Pauvre Odette, il ne lui en voulait pas. Elle n'était qu'à demi coupable. Ne disait-on pas que c'était par sa propre mère qu'elle avait été livrée, presque enfant, à Nice, à un riche Anglais? Mais quelle vérité douloureuse prenait pour lui ces lignes du journal d'un poète d'Alfred de Vigny qu'il avait lu avec indifférence autrefois. Quand on se sent pris d'amour pour une femme, on devrait se dire « Comment est-elle entourée? Quelle a été sa vie? » Tout le bonheur de la vie est appuyé là-dessus. Swann s'étonnait que de simples phrases épelées par sa pensée comme cette blague « Je voyais bien où elle voulait en venir » puissent lui faire si mal. Mais il comprenait que ce qu'il croyait de simples phrases n'étaient que les pièces de l'armature entre lesquelles tenait pouvait lui être rendue la souffrance qu'il avait éprouvée pendant le récit d'Odette. Car c'était bien cette souffrance-là qu'il éprouvait de nouveau. Il avait beau savoir maintenant, même, il eut beau, le temps passant, avoir un peu oublié, avoir pardonné, au moment où il se redisait ces mots, la souffrance ancienne le refaisait tel qu'il était avant qu'Odette ne parlât, ignorant, confiant. Sa cruelle jalousie le replaçait pour le faire frapper par l'aveu d'Odette dans la position de quelqu'un qui ne sait pas encore. Et au bout de plusieurs mois, cette vieille histoire le bouleversait toujours comme une révélation. Il admirait la terrible puissance recréatrice de sa mémoire. Ce n'est que de l'affaiblissement de cette génératrice dont la fécondité diminue avec l'âge qu'il pouvait espérer un apaisement à sa torture. Mais quand paraissait un peu épuisé le pouvoir qu'avait de le faire souffrir un des mots prononcés par Odette, alors un de ceux sur lequel l'esprit de Swann s'était moins arrêté jusque-là, un mot presque nouveau venait relayer les autres et le frappait avec une vigueur intacte. La mémoire du soir où il avait dîné chez la princesse des Laumes lui était douloureuse, mais ce n'était que le centre de son mal. celui-ci irradiait confusément alentour dans tous les jours avoisinants. Et à quelques points d'elle qu'il voulut toucher dans ses souvenirs, c'est la saison tout entière où les Verdurin avaient si souvent dîné dans l'île du bois qui lui faisait mal. Si mal que peu à peu les curiosités qu'excitait en lui sa jalousie furent neutralisées par la peur des tortures nouvelles qu'il s'infligerait en les satisfaisant. Il se rendait compte que toute la période de la vie d'Odette écoulée avant qu'elle ne le rencontrât, période qu'il n'avait jamais cherché à se représenter, n'était pas l'étendue abstraite qu'il voyait vaguement, mais avait été faite d'années particulières, remplies d'incidents concrets. Mais en les apprenant, il craignait que ce passé incolore, fluide et supportable, ne prît un corps tangible et immonde, un visage individuel et diabolique. Et il continuait à ne pas chercher à le concevoir, non plus par paresse de penser, mais par peur de souffrir. Il espérait qu'un jour, il finirait par pouvoir entendre le nom de l'île du bois, de la princesse des Laumes, sans ressentir le déchirement ancien, et trouvait imprudent de provoquer Odette à lui fournir de nouvelles paroles, le nom d'endroits, de circonstances différentes, qui, son mal à peine calmé, le ferait renaître sous une autre forme.